Soleil d'un jour sur Radio La, comme tous les dimanches entre 11h et midi, avec Maurice FD. Maurice, bonjour.
Bonjour, du soleil, des monts Montalban. Nous sommes partis de Mitla, nous terminerons là-haut, à Lunes del Cerro, la Guelaguetza.
Nous sommes à Oaxaca, Maurice.
Oaxaca, vous l'avez prononcé avec un X. C'est vrai qu'il y a des façons assez curieuses de prononcer les X au
Mexique. Ça se prononce comment ?
Et si vous avez Taxco, qui s'écrit Taxco avec un X au milieu,
on prononce
c'est
R.
Un S.
Ah, d'accord.
Si vous êtes espagnol, vous auriez envie de dire México. Donc le X de Mexico, en fait, lorsqu'on le prononce sur place, se prononce CH. C'est le vieux CH précolombien. Donc on dit México. Ah, par contre, on dit effectivement Oaxaca avec un X.
Alors nous sommes à Oaxaca, nous sommes en pleine ville. C'est une grande ville.
Oh, c'est une ville admirable d'abord. C'est rien que de prononcer ce mot-là, moi j'ai envie de me poser sur une terrasse.
C'est une bonne idée.
Ben oui, il y a des endroits où on se dit qu'il y a... C'est, je le répète souvent... C'est le fait de se retrouver vraiment dans ces deux jours magiques à la fin mai où on se dit si le printemps pouvait durer. Et quand il dure comme ça, les premières soirées que nous avons ici...
On fait la fête.
Oui, et où on sait qu'on peut rester dehors, que la température est suffisamment agréable que pour jusqu'à minuit, une heure du matin, il fait très très bon encore. Et Oaxaca, c'est la ville où le simple fait d'être sur un zocalo comme celui-ci, ça fait rêver. On disait d'ailleurs, je prends un exemple, vous savez Nietzsche, le grand philosophe, sur son lit de mort, c'est ce qu'il rêvait. Ça paraît curieux de penser que des gens comme ça, des immenses philosophes, des immenses écrivains comme celui-ci, aient pu penser tout à coup, là, dans un coin de l'Europe, que s'il fallait mourir aujourd'hui, c'est justement là-bas qu'il voulait le faire. Et quand on est malade et qu'on termine une vie et qu'on a une mauvaise santé, ou qu'on voudrait retrouver même la santé... Bah, je suis sûr, moi, que si on arrive à se retrouver sur ce Zocalo de Oaxaca, tout va mieux.
On est assis à 1600 mètres, hein, c'est ça ?
Oui, et quand on est là-haut, je dis là-haut parce que je vois bien haut, mais c'est le Zocalo par excellence. Le Zocalo, c'est cette place principale.
Le socle.
Moi, j'irais même plus loin, s'asseoir sur une terrasse, je parle le café Marquez, par exemple. Et le Marquez, c'est l'idéal. Hein.
Ouais.
Vous avez les gens qui passent. Depuis quelques années, on a fermé la circulation automobile, enfin, elle a été interrompue. Ce qui fait qu'on peut vraiment regarder cette circulation piétonne qui se fait dans les deux sens. Donc, plus de voitures.
Il n'y a que des zones piétonnes ?
Il y a des pavés partout et surtout alors, des fleurs. Il y a aussi toute cette coloration, par exemple, les dômes des églises, la cathédrale qui est juste à côté, les bâtiments eux-mêmes. Il y a aussi ce côté... Les couleurs de la pierre sont importantes. Il y a du jaune, mais il y a surtout du vert. Une calcite d'un vert très, très pâle, très doux, comme ça. Et puis, cette place est animée par des arbres, où le soir, vous avez cette heure magique où descendent des milliers d'oiseaux noirs qui font un bruit très curieux, comme ça, qui caquettent pendant, en tout cas, une petite heure. Et au centre, c'est vraiment le moteur du monde. Vous avez le kiosque. Le kiosque qui est vide toute la journée et qui, le soir, se remplit par cette fanfare.
Il y a que les enfants. C'est très, très vivant, le soir.
C'est extraordinairement vivant. D'abord, vous avez ce double flow. Je dirais même qu'on sent que c'est un lieu de séduction parfait. C'est-à-dire qu'on va voir tout le monde et on va croiser tout le monde. Les jeunes filles vont dans un sens, les jeunes gens dans l'autre. On peut rester sur un banc un moment. Vous êtes sur votre terrasse parce que vous avez la chance de vous offrir quelque chose à boire. Et puis, il y a cette espèce de... Comment est-ce que je vous dirais ? Je parlais des enfants tout à l'heure qui eux, pourraient monter sur le kiosque, qui est ce lieu un peu interdit. Vous auriez, il y a le fou du village aussi. Enfin, il y a n'importe qui peut vivre.
Le fou du village.
Mais oui, parce que le Mexique est un pays qui permet à tout un chacun de vivre dehors, y compris ceux que chez nous on met dedans, enfin qu'on enferme. Ben là, vous les trouvez dehors. Ça peut être le petit infirme, ça peut être n'importe qui, le vendeur de journaux, celui que la petite fille qui vient vous vendre quelque chose. Je suis volontairement lent et long sur cette idée, mais c'est parce qu'il ne se passe rien en fait et que tout se passe sous vos yeux, vous pouvez vous asseoir à 6h du 1 et vous retrouver à minuit sans aucun problème, sans même vous apercevoir.
Ça va bouger.
Oui, il y a plein de petits événements comme ça les uns derrière les autres. Je crois qu'on a déjà parlé de la nuit des radis, vous vous rappelez
oui.
Cette nuit des radis où on célèbre un peu l'érotisme là, juste avant les fêtes de Noël. Enfin, ça se passe le 23 décembre.
C'est un peu comme ça ?
C'est un peu la même ambiance. Vous pourriez casser les assiettes en mangeant vos merveilles avec du miel. Cette place à Mayor, elle n'a rien à voir avec celle de la capitale, par exemple, ou d'autres villes du Mexique. Et ce qui est curieux, c'est que c'est peut-être le seul endroit en Amérique latine où j'ai senti que j'étais vraiment dans le centre du monde. Vous êtes vraiment au cœur de quelque chose. On a l'impression qu'au moment où on est assis sur cette place, le monde tourne autour de vous. et que vous êtes bien installé dans ce point. Ça me fait penser aussi à autre chose. J'ai souvent pensé sur place. Vous savez, quand on a vécu certains cyclones, ces cyclones, et qu'on est pris dans le comment ça s'appelle, dans le tourbillon, dans le cœur du cyclone, il y a ce moment de calme. Cette espèce de folie du calme.
Je l'ai pas vécu, Maurice.
Et vous avez les parois du cyclone qui sont à l'extérieur, et vous êtes dans quelque chose qui ressemble à un trou, véritablement. Mm-hmm. Mais un trou moite, un trou silencieux, un trou anormal, un trou qui fait presque peur, mais qui en même temps est fantastiquement
confortable. Dans le trou, tout est normal, à l'extérieur, sur les parois,
ça, c'est autre chose.
Ça dégage.
Mais c'est quand même impressionnant quand vous avez vécu un vent à 150 à l'heure et qu'au milieu, tout est calme. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de voir les choses à l'extérieur, parce que c'est vraiment la chose la plus reposante que je connaisse. On dirait même que la pression, naturellement, a changé. Eh bien, le cœur de Oaxaca, c'est un peu ça. Vous pouvez rester toute une journée dans ce lieu de non-pression, être au centre du monde. Et quand on pense à nos villes, à nous, je ne sais pas, celles du Moyen-Âge, qu'on a encore, à cause de la vieille ville, à cause de la cathédrale, il y a un labyrinthe pas possible de rues tortueuses, enfin, c'est un...
Ça remonte à combien d'années, cette ville?
Oaxaca a été fondée, tout comme les grandes villes du Mexique, au plein début du XVIe siècle, c'est-à-dire dès l'arrivée de Cortés. C'était sur un site précolombien, et qui avait déjà été occupé par les Zapotèques, par les Mixtèques, ensuite par les Aztèques, qui ont attaqué cet endroit assez tard. C'était une petite garnison aztèque, et quand les Espagnols se sont installés à Oaxaca, ils ont repris le lieu, et naturellement, comme d'habitude, on a créé cette place où nous sommes maintenant comme un véritable carré, et on a tiré toutes les rues vraiment au cordeau.
À partir de,
voilà. Donc
de ce
est,
socle.
Tout est véritablement fait au carré. Et les cuadras, vous avez la cathédrale qui représente la place qui est juste à côté du Zocalo. Elle est aussi assez curieuse. C'est une place où on a envie de faire du commerce. C'est juste pour vous dire qu'il y a un autre pôle et qu'en dehors de ce centre très curieusement calme, il y a d'autres centres. Alors, c'est vrai que c'est aussi un axe. La cathédrale montre l'axe qui va vous permettre d'aller ensuite jusqu'à la rue piétonne qui monte doucement jusqu'à Santo Domingo. Les Dominicains, c'est très important. Et puis, si vous prenez l'inverse de l'axe et vous cherchez l'autre axe, eh bien, vous allez vous retrouver dans le cœur de la vieille ville, de ce qui était vraiment la ville précolombienne, et là, c'est le marché. Donc vous avez ce côté religieux et puis ce côté laïque de l'autre côté, avec un bourdonnement. Alors, Oaxaca, tiens, là, je vous parlerai volontiers au petit matin, après votre nuit chaleureuse, après votre terrasse. À 8h du matin, moi, je rentre dans le marché, il y a d'abord les odeurs. Les premières, ce serait l'odeur des tortillas, toutes ces femmes qui viennent de la campagne et qui vous ont chauffé leurs tortillas à la maison, et cette odeur de maïs assez écœurante comme ça, mais en même temps très chaleureuse, ça donne faim. Vous vous installez sur un petit banc et là, on va vous servir un chocolat chaud avec ce petit rien de pain aux œufs qu'on mange à Oaxaca.
Sobriety. soft and pokey. You pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety.
Nous venons de prendre un plantureux petit déjeuner. Vous parliez tout à l'heure, Maurice, de pain aux œufs. C'est ce qu'on appelle le pain perdu ?
Non, pas du tout. C'est un pain, comme on appelle pain des morts aussi, on peut l'appeler pain de fête. C'est vraiment une brioche.
Ah, d'accord.
Une extraordinaire brioche.
C'est-à-dire une tranche de pain qu'on trempe dans les œufs comme ça dans une.
Pas du tout, non, c'est fait avec des œufs. C'est-à-dire que pour faire une brioche. Je veux dire par là que c'est la pâte aux œufs qui donne cette couleur jaune de la brioche.
Ah, très bien, oui, voilà. J'ai rien compris. Donc, oui.
Non, bon, j'y suis là, c'est très bon. Et puis vous trempez ça dans le chocolat, là je suis d'accord. Et le chocolat est onctueux. Enfin, il faut déjà mettre les choses en place. Aller prendre un chocolat au marché de Oaxaca, ça signifie rentrer dans le marché, voir des tonnes de fruits, de légumes, ces femmes qui vous vendent les tortillas bleues. Ça, c'est la particularité de l'état de Oaxaca. On a beaucoup de tortillas bleues parce que le maïs est souvent bleu, bleu violacé comme cela. Donc, elles ont des grandes tortillas, aussi grandes que des disques 33 tours. Ce sont les plus grandes tortillas du Mexique. Et puis, il y a des stands où on vend du fromage de Oaxaca qui est, vous imaginez une pelote.
Pourtant, les Mexicains ne sont pas spécialistes du fromage.
Pas du tout, non. C'est vrai, il y a des vaches parce qu'à 1600 mètres, ça pousse bien les vaches.
Oui.
Et en l'occurrence, vous imaginez, c'est une pelote de laine, hein, une grosse pelote de laine, parce qu'on fait des fils de fromage un peu élastiques, comme ça, un peu chewing-gum, et on tourne cela au moment où il est préparé, et on vous offre ça carrément en pelote, comme ça. Et ça se tire un peu comme de la gomme.
Ça, on en a pour toute la
journée.
C'est
un fromage délicieux quand il est fondu, justement, dans une tortilla et grillé. Et vous avez à côté, alors, du mollet. Tiens, le mollet, c'est cette pâte qui est préparée pour faire une sauce qui va ensuite arroser toute sorte de viande, y compris le dindon et le poulet. Et puis, vous avez un quartier entier pour les fleurs. Et tout au fond, vous avez les restaurants. Alors, il y a des couleurs extraordinaires. Vous êtes donc sous un immense chapiteau, un vrai marché couvert. Et puis, vous avez ces petits stands avec des petits bancs colorés, avec ces cuisinières qui sont simplement des
trous. C'est un grand marché.
C'est un immense marché.
Un immense marché.
Qui a beaucoup diminué au cours des dernières années parce qu'on a encore fait des halles à l'extérieur de la ville de Oaxaca. Mais lorsque j'ai croisé pour la première fois les chemins réticulés, les rues réticulées de Oaxaca, le marché prenait pratiquement le quart de la ville le jour du marché.
Ah, c'est un marché important.
On remplissait les rues, on mettait des toiles partout et ça a gardé ce charme à l'intérieur même de ce marché couvert. Et ces petits restaurants, ben, vous en avez tout à coup 50 ou 100 les uns à côté des autres. Moi, je vais toujours chez la Abuelita, la petite grand-mère, elle est toujours là avec ses cheveux blancs, c'est rare.
On a le choix donc.
Oui, on a le choix. Les Indiens ont rarement les cheveux blancs, mais elle est très âgée et puis elle fait le meilleur chocolat qu'elle bat encore avec un vieux fouet en bois. Et
qu'on oui, c'est pas les frappés qu'on nous fait ici à Genève, hein, rien à voir. Donc.
Des gros bols de chocolat, bien chaud, avec mon pain brioché. Et est-ce que vous pourriez revenir sur la place centrale que j'évoquais tout à l'heure? Là, vous étiez au sud, vous allez repasser devant une très belle église baroque avec des sculptures fantastiques. Et la place, si j'insiste un petit peu, c'est qu'en fait, quand on a fondé cette ville de Oaxaca, c'était un peu votre question tout à l'heure, mais il faut quand même savoir que...
Donc au XVIe siècle.
Oui, ben, si je prends le cas de la fin du XIXe, on avait presque 300 villes qui étaient construites de la même manière dans la Nouvelle-Espagne. Le Mexique a été complètement couvert par ces, C'est un système en fait assez italien. On pourrait même monter jusqu'à l'Inde. Hein. Les premières grandes villes de l'Inde étaient déjà réticulées comme ça, avec cette façon orthogonale de placer les rues. Et ce qui est curieux, c'est que, bon, à Oaxaca, on l'a fondée tout cela en 1520. Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Il y a eu différents noms à cette ville. Elle s'est appelée d'abord Via Segura de la Frontera.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tenez, je vous pose une question. Oaxaca, ça veut dire, ça a certainement une
alors,
signification.
Oaxaca, c'est un nom qui a été mal traduit. C'est-à-dire qu'au début, ça s'appelait Via Segura de la Frontera. Mais le fort aztèque, je vous en ai parlé tout à l'heure, on avait fondé une sorte de petite garnison aztèque, s'appelait Waxquiacac. Et c'est une déformation de ce nom qui a donné Oaxaca, qui ne veut plus rien dire, si vous voulez, mais la prononciation est restée.
Et donc l'origine, ça veut dire ?
À l'origine, c'est le lieu, de, par exemple, par rapport à cela. Comment ça se traduit ? Ça, c'est une bonne question. Oaxaca, c'est...
C'est vrai que les Mexicains ont des noms pas possibles.
Oui, non, j'essaie de retrouver la racine nahua. Là, j'ai un petit blanc, je devrais peut-être que vous la sortir au prochain disque si j'y arrive.
D'accord.
Hein. Mais oui, c'est une signification tout à fait certaine, mais je l'ai complètement oublié, ça c'est vrai.
On vous en veut pas.
Ça faisait partie du royaume, par contre, de Toututepec. Et ça, je peux vous dire ce que ça veut dire, Toututepec.
Oui, vous pouvez. Oui.
Essayez d'imaginer quand vous dites Toututepec.
Toututepec,
c'est la montagne, hein, c'est le mont.
Ouais.
Toututututututu.
Le nom du chien, c'est
non,
ça?
Non, c'est un oiseau.
Ah, d'accord.
Les oiseaux font toutou au Mexique.
Ah, bien sûr.
Et avec ce climat absolument incroyable de Oaxaca, ça s'appelait Antequera aussi. Je crois que c'est une des villes qui a le plus changé de nom, sans blaguer. Et à l'origine, eh bien, c'est vrai qu'avec le bourdouillement espagnol, on a un peu transformé notre... comment je l'ai appelé là tout à l'heure? Waxiacac.
Voilà.
Vous y étiez presque. Alors, si je reprenais maintenant le Zocalo, c'est que j'ai envie de vous faire monter cette ville piétonne pour aller jusqu'à Santo Domingo. Je cherche toujours la traduction de mon nom et là, je dois vous que Frédéric va craquer avant d'arriver à l'église de Santo Domingo. Il y a plein de boutiques, il y a plein de trucs sympathiques en montant. Il y a même la maison de Cortés. Puisqu'on parlait de la fondation, Cortés a reçu en cadeau cette ville de Oaxaca et toute la vallée. Et c'est une des maisons privées les plus somptueuses que je connaisse au Mexique, toujours dans cette pierre verte avec des portails, des balcons. Et quand on arrive en haut devant l'église de Santo Domingo, bon, c'est au contraire un peu plus tard, entre 1550 et 1600, elle est transformée aujourd'hui en musée. Un musée qui est éblouissant parce qu'il contient le trésor de la tombe numéro 7. C'est un trésor qui a été retrouvé à Monte Albán. C'est la première tombe qu'on retrouvait intacte, avec des centaines de pièces d'or et d'argent, et des masques. Quand je dis masques, il faut comprendre que tout cela était fondu à la cire perdue. Et ce sont des masques...
C'est quoi, c'est en métal, non ?
Oui, c'est de l'or. Mmh,
c'est de l'or. Oui,
des masques mortuaires. Vous avez un masque du dieu Chipetotec. C'est une sorte de dieu, comme une sorte de tête de guerrier. Et sur cette tête, il porte la peau d'un autre guerrier. C'est assez impressionnant parce que c'est typiquement le genre de sacrifice que faisaient volontiers les précolombiens. Il y a un crâne aussi qui est absolument remarquable parce qu'il est couvert de turquoise et de pierres taillées. Ça vous fait toujours rire, Frédéric, mais je peux le comprendre.
C'est les oiseaux qui me font rire.
C'est toutou là,
oui,
vous
oui,
fait,
oui,
je crois que vous n'avez pas pu décrocher. Non, enfin, dans mon couvent de Saint-Dominique de Guzman, je crois que ce qui va vous éblouir le plus, c'est l'ouverture des portes de l'église. Quand on arrive à l'intérieur, on découvre un arbre de Jessé. C'est-à-dire que vous êtes pris sous une sorte de voûte et cette voûte a été sculptée, travaillée dans du stuc. Et au départ, vous avez comme une sorte de tronc avec des branches qui couvrent complètement la voûte. Il y a des grappes de raisin un peu partout. Et on a remis en fait tous les rois de Juda. Mais au départ, c'était un simple arbre de Jessé, donc, qui est donc celui de l'origine de Jessé jusqu'à... Et maintenant, ça a été transformé. C'est-à-dire qu'on a mis, Saint-Dominique de Guzman en bas, qui est couché comme s'il était dans sa tombe. Et à partir de lui, en fait, tout ce qui va faire sa famille, si vous voulez, la grande famille dominicaine, avec naturellement la Vierge qui est l'aboutissement du rosaire. Et c'est vrai que l'éblouissement de cette église, lorsqu'on y pénètre, c'est d'abord cette sculpture colorée, travaillée sur ce fond blanc, et puis l'autel qui est au fond, qui est éblouissant d'or. Vraiment, c'est une immense masse d'or avec des colonnes salmoniques, avec des tableaux à l'intérieur, comme le sont tous les grands retables espagnols. Il y a une chapelle sur votre droite qui est aussi somptueuse que l'autel lui-même. Et puis, le décor général, on est vraiment baigné dans du baroque doré. C'est le rêve absolu de ce qu'on peut trouver de plus beau au Mexique. Every day and every night, we'll be together.
Là, j'avoue, Maurice, je suis un peu perdu. Nous sommes où à l'église San Domingo, c'est
vous
ça?
Vous pouviez bien l'être. Là, vous étiez déjà coincé entre deux totos et deux totos de tout à l'heure.
Ouais.
On était dans l'église de Santo Domingo, c'est vrai.
Donc, qui est Saint Dominique?
Ah, bah, c'est une bonne question. Dominique de Guzmán, c'est le saint peut-être le plus connu d'Espagne.
De Guzmán?
Dominique de Guzmán est quelqu'un qui, dans les années 1200, et là, je n'aurai pas la date, mais par contre, je risquerais bien de vous retrouver avant, à la fin de l'heure, le nom de Oaxaca en aztèque, là, ça va,
j'espère bien,
peut-être.
J'espère bien. Ouais.
Saint Dominique, c'est un frère prêcheur qui, au départ, s'est baladé de l'Espagne et est venu, si j'ai une bonne mémoire, voir les Albigeois. C'était la grande époque des Albigeois, les fameux massacres du côté des Cathares. Hein. Et ça l'a tellement touché qu'il a monté un ordre, qu'il a créé un ordre qui est à la fois prêcheur, bien sûr, mais qui en même temps est un ordre hospitalier. Et quand vous l'avez vu tout à l'heure dans la voûte, enfin sur cette voûte à l'entrée de l'église de Santo Domingo, là, puisque nous sommes dans ce côté baroque, et bien c'est justement à partir du père, du fondateur de l'ordre des frères prêcheurs, Don Félix de Guzmán, qu'on a pu remonter comme ça tout notre arbre généalogique jusqu'à la Vierge. Alors c'est quelqu'un qui en fait a fondé cet ordre et qui va se... pratiquement faire concurrence, on pourrait le dire, aux franciscains qui se fondent pratiquement à la même époque en Italie. J'espère avoir un peu éclairé votre lanterne, mais tiens, je vais vous retrouver là le nom de Oaxaca, parce qu'en fait, si je le prononce à la façon précolombienne, donc Waxiaca, Waxiaca, c'est l'endroit qui se trouve près des épineux, ou plutôt près des acacias. Vous voyez cet arbre qui représente l'acacia?
Ah bah justement, tiens, j'ai une autre question à vous poser.
Oui.
Oaxaca, donc autour de Oaxaca, qu'est-ce qu'il se présente au niveau faune?
Alors, faune et flore, parce que faune, il n'y a plus grand-chose aujourd'hui. Il y a plein d'oiseaux. Des vaches, il y en a moins qu'on pense. Je veux dire, c'est quand même en altitude. Là, si je parle de la vallée elle-même de Oaxaca, c'est une ville qui est appuyée contre une montagne. Nous y grimperons tout à l'heure, puisque on y fête le lundi de la montagne, qui est la fête la plus célèbre de Oaxaca au mois de juillet. Et il y a comme cela des espèces de monts qui reprennent cette énorme vallée. Elle est très large, très profonde. Elle a une forme d'Y. Elle est habitée surtout par des cactus. Et puis,
des acacias.
C'est vrai qu'il y en a aussi, ce côté un peu sec, mais une agriculture très riche parce que c'est aussi une plaine qui est arrosée de façon très régulière. 1600 mètres permet d'avoir à la fois des pluies régulières, donc une agriculture extrêmement riche. Donc le tour de la ville de Oaxaca, nous l'avons vu la semaine passée en arrivant, c'est vraiment la vallée la plus riche qui soit. Mmh. Et c'est pour cela qu'elle avait été offerte à Cortés.
Donc l'origine est exacte.
Ah bah oui,
le mont des acacias.
Le lieu des acacias, en tout cas, près du lieu des acacias, si on peut le prononcer tout à fait vrai. Et s'il y a eu cette première expédition des Aztèques dans cet endroit, c'est justement parce que les marchands, qu'on appelait les Pochtecas, ces marchands qui partaient avec leurs hôtes à pied, bien sûr, par la route à l'époque aztèque, partaient vers le sud et ont eu envie de s'installer sur ce chemin qui descendait jusqu'à Tehuantepec, la partie la plus serrée du Mexique. Et il y a eu une résistance extrêmement longue de cette région de Oaxaca. Pour obtenir ce petit site, il a fallu 4 ans de guerre avant qu'on rentre de manière triomphale dans la ville de Mexico. C'était à l'époque de Montezuma premier. Donc c'est juste avant l'arrivée des Espagnols qu'on a réussi à prendre ces terres qui auparavant étaient à la fois mixtèques et zapotèques, les deux grandes civilisations. Les mixtèques, on les a un peu rencontrés la dernière fois du côté de Mitla, avec ses Grecs assez curieuses. Montalbán, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Montalbán, c'est le site parfait posé à 2000 mètres. Alors, vous voyez, j'imagine maintenant c'est 1600 où nous sommes.
Oh, c'est juste à côté, j'ai la carte sous les yeux.
C'est vraiment
très
juste à côté. C'est à 9 km de Oaxaca, pour être exact. Et Montalbán, on y grimpe avec quelques lacets, et on arrive en haut et on se retrouve devant une cité avec des temples, des jeux de pelote, des palais, avec justement la vue. La vue la plus extraordinaire du Mexique. Quand vous êtes au sommet de l'acropole et que vous avez ces trois vallées qui partent de chaque côté avec ces montagnes qui montent à plus de 2000 et cette vision à 100 km à la ronde, c'est vraiment éblouissant. Ce sont les paysages les plus clairs et les plus parfaits qu'on puisse rêver de trouver au Mexique. C'est ça la richesse en fait de Oaxaca. Et c'est de là qu'on peut apercevoir la ville complète avec tout ce côté colonial qu'on évoquait, parce que bien sûr qu'autour du Zocalo, ce ne sont que des immeubles avec des arcades. Enfin, c'est la vieille Espagne. Ces maisons qui sont construites comme le palais de Cortés, c'est de la sculpture. Le devant de la cathédrale, c'est vraiment de la draperie sculptée. Le devant de Santo Domingo, tout à l'heure, avant de rentrer au musée, c'était de nouveau à la fois Dominique de Guzmán en statue, Saint Hippolyte à côté. Enfin, c'est de nouveau quelque chose de très travaillé. On a l'impression de voir un retable, comme celui qui était en or, posé à l'extérieur en pierre.
Donc très espagnol.
Ah oui, complètement. C'est une ville extrêmement... mais qui a ce côté indien. C'est qu'on est entouré de zapothèques, les gens qui viennent au marché ont encore ces allures indiennes, et c'est l'état le plus indien en nombre de tout le Mexique. C'est un état énorme. Hein. Mm-hmm. Donc les gens viennent de la Sierra, descendent comme cela de village en village pour rejoindre la capitale. Et je dirais que quand on vit à Oaxaca, de façon un peu continue, on se rend compte qu'il y a tout. Il y a des petits bars sympathiques, il y a aussi un côté culturel qui est très marqué, il y a une excellente musique, vous aurez des musées époustouflants. Là, je parle de la qualité. Vous avez par exemple le petit musée qui a été offert à sa ville natale par Rufino Tamayo. Rufino Tamayo est connu dans le monde entier, en tout cas pour ceux qui aiment l'art moderne, comme étant vraiment le chef de file de l'art contemporain du Mexique. Il est mort il y a quelques années, mais bien avant de mourir, il avait déjà offert sa collection d'art précolombien à sa ville natale. C'est un peintre qui était très inspiré par l'art précolombien, et il a acheté les pièces, je ne dis pas que c'est en fraude parce qu'il est mexicain, mais ça s'achète directement aux fouilleurs clandestins. Et on savait que Tamayo achetait les pièces qui étaient les plus parfaites. C'est-à-dire une pièce qui n'avait aucune égratignure, qui avait un style, un goût absolument parfait. Donc il a réuni plusieurs centaines de pièces qui sont parmi les œuvres les plus esthétiques de l'art précolombien. Il a installé ça dans des salles colorées, dans une vieille maison coloniale. C'est sublime. On rentre et on redécouvre complètement, des Olmèques aux Aztèques, toute l'histoire du Mexique, avec des choix qui sont faits par un artiste. Hein. Et c'est ça qui est important, un choix d'une précision presque diabolique. On se dit, c'est pas possible d'avoir trouvé une pièce aussi remarquable. Alors que ce soit un petit chien assis sur son derrière qu'on met dans une tombe avec ce côté très lisse, que ce soit des pièces d'argile d'1,50 m ou 2 m de haut avec du goudron posé sur les mains ou sur les yeux ou comme masque autour de la bouche sur un fond d'argile jaune avec des attitudes hiératiques comme on les a sur la côte du Golfe, que ce soit des céramiques où il a choisi justement les motifs les plus incroyables. Il a par exemple des bas-reliefs, il a réussi même à trouver, je crois, la seule tête en argile crue, donc qui aurait pu subir la pluie mais qui a été conservée comme telle, qui est un portrait fantastique. Tout a été conservé de façon éblouissante parce que ce sont les pièces bien sûr qu'il a pu choisir sur le tas. Et il y a d'autres endroits comme ça, pour l'artisanat par exemple, c'est la ville la plus fantastique. On peut trouver 20 ou 30 boutiques où vraiment on peut retrouver le meilleur folklore de tout le pays. Alors, je parle de façon peut-être un peu chaleureuse de Oaxaca, mais si je devais m'installer à quelque part, ce serait d'abord sur le Zocalo tout à l'heure. Mm-hmm. Ce serait d'abord pour me dire que tiens, il y a deux solutions, soit je laisse le monde tourner autour de moi, soit je tourne moi-même et puis je commence ce mouvement étrange qui fait qu'on peut passer jour après jour, je dirais plusieurs semaines, peut-être même un bon bout d'une vie, dans une ville où chaque fois qu'on ouvre les yeux, il y a à la fois un regard en face qui est amical, la douceur de vivre, et ce sont peut-être parmi les gens les plus agréables à croiser comme cela.
Don't you ever go away. Ballerina girl.
Eh oui, Oaxaca. Ça donne envie de sourire comme ça. Ça a envie d'être bien. Mm-hmm. Et je vous ai promis de monter sur le sommet de cette montagne qu'on appelle le Cerro, bien sûr, sur place, hein, CE2RO. Et quand on dit Cerro à quelqu'un de Oaxaca, il dit immédiatement Lunes del Cerro, lundi de la montagne. Alors c'est une histoire assez curieuse. On parlait d'agriculture tout à l'heure, on a parlé de fertilité, on a parlé de beauté de cette vallée, on a collé quelques cactus, vous avez mis quelques vaches, moi j'ai surtout ajouté toutes les céréales et toutes les choses qui font rêver, mm-hmm. Selon le critère de l'agriculture mexicaine. Mais cette fertilité, cette agriculture, c'est un dieu qui existait à l'époque précolombienne, et il a un nom que vous allez adorer aussi, il s'appelle Pitao Cocobi.
Pas mal.
C'est vrai que l'aztèque est une langue déjà étrange, mais le zapotèque c'est pas triste du tout, parce que les prononciations hypothèques font souvent sourire. Et Kosobi, comme on le résume, c'est vraiment ce dieu de la fertilité. Et il était toujours lié, bien sûr, au maïs, qui est la plante par excellence. Alors, les Mexicains, lorsqu'ils vont s'installer dans la vallée de Oaxaca, vont amener leur propre dieu de la fertilité, qui porte un autre nom. Alors, c'est Zenteotl. Zenteotl, c'est la déesse, disons, du jeune épi de maïs, celui qui est tendre, qui est blanc. On l'appelle aussi Chilonen. Chilonen, c'est vraiment cette tendresse. C'est une divinité très belle, d'ailleurs, avec une très belle coiffe. Et c'est seulement pour vous montrer que l'histoire peut changer, mais les idées restent les mêmes. Au moment de l'évangélisation, là, qui s'est produite en, je sais pas, en 1529 ou quelque chose comme ça, puisqu'on s'est installé en 1521, grosso modo, eh bien, on va également devoir reprendre certains de ces symboles précolombiens. Et puis, tout à coup, en 1670 ou 69, je sais pas, vous avez les Carmélites, par exemple. Ce sont pratiquement les derniers missionnaires, les derniers à s'installer dans la vallée de Oaxaca. Et eux, ils installent naturellement une image du Carmen. Et ce Carmen, il faudra bien le fêter. C'est une fête qui a lieu chaque année, n'importe où, au Mexique ou en Espagne, le 16 juillet. Alors, on va naturellement créer la fête chrétienne. Et puis on se dit, on va être un peu gêné. Il faudra quand même faire quelque chose avec les indigènes. On va leur demander d'arriver avec leur musique ou de danser. On essaye de les incorporer, si vous voulez. Alors, ce qui fait que finalement, les carmélites vont dire, eh bien, voilà, on va faire une fête vraiment chrétienne, très stricte. Et on va la célébrer le dimanche. Et puis, on leur laissera le lundi.
Voilà.
Voilà. Et c'est pour ça que tout à coup, on s'est retrouvé avec des danses et certaines choses, et que la fête s'est appelée Lunes del Cerro, le lundi de la montagne. Alors, c'est seulement en 1932, là, je vous refais carrément l'historique de ce qu'on appelle aujourd'hui la Guelaguetza. La Guelaguetza, eh bien, c'était quelque chose qui a déjà pu se faire au moment des lundis de la montagne. C'est très indien. C'est-à-dire, lorsqu'une fête a lieu, il y a un moment donné où il y a vraiment l'offrande. L'offrande avec un grand O. L'offrande, c'est l'offrande de votre musique, l'offrande de vos danses, l'offrande de votre nourriture, enfin, tout ce qui a fait votre année et qui va ouvrir la suivante. Alors, en 1932, eh bien, on a justement, c'est une sorte de rappel, c'était le 4e siècle après la fondation de la ville, mais sous le nom d'Antequera. Je vous ai dit qu'elle avait plusieurs noms, hein. Ça ne correspond pas tout à fait, 1532, mais c'est vraiment la vraie fondation hispanique. Et il y avait des programmes spéciaux. Alors on a demandé si on pouvait faire éventuellement une offrande, si les Indiens pouvaient faire une offrande comme ils la faisaient le lundi de la montagne. Et voilà, le nom de Guelaguetza est resté. Alors c'est assez intéressant de voir que sur le côté patriotique, c'est devenu quelque chose d'aussi très curieux. Parce que quand on dit Oaxaca, n'importe qui au Mexique vous dira « Ah, Oaxaca, c'est là où est né. » Enfin, on appelle ça l'endroit de... Je sais pas, on appelle ça le berceau des patriotes, si je traduis en français, hein, mentalement. Parce que la cuna de los patriotas. Et parce qu'on dit, oui, bien sûr, il y a, juste à côté de Oaxaca, il y a eu Benito Juárez, le premier président qui est mort en 1872, qui était vraiment de couleur foncée, donc un Indien qui était devenu avocat, qui était devenu président du Mexique, qui a fusillé Maximilien, qui a créé la réforme, qui a créé la constitution, enfin vraiment quelqu'un d'important. Et puis, si je disais Oaxaca, je pourrais aussi dire, tiens, le grand dictateur, le plus grand dictateur du Mexique, qui a duré 30 ans jusqu'en 1910 à la Révolution, c'est Porfirio Díaz. Et bien, il est justement né à côté de Oaxaca.
Réputation.
Vraiment. Et, qui est à la fois double, hein. Il y en a une bonne et une mauvaise. Mais encore qu'on pourrait savoir qui est le bon et qui est le mauvais. Mais enfin, Porfirio Díaz, c'est vraiment le dictateur. Mais en même temps, c'est les sciences, les premiers chemins de fer, l'industrialisation, les étrangers qui arrivent. Ça, c'est pas forcément positif. Et en l'occurrence, cette Guelaguetza qui a lieu au mois de juillet, eh bien, on a déclaré que on pourrait peut-être en même temps en faire une sorte d'offrande pour les gouvernants, c'est-à-dire le gouverneur de l'État de Oaxaca, par exemple. Alors on dit, bah voilà, pour se trouver le lundi et en faire peut-être deux, parce qu'il faut doubler, il y aura peut-être beaucoup de touristes, il y aura peut-être beaucoup de monde, on va choisir les deux lundis qui suivent la mort de Benito Juárez. Il est mort le 10 juillet. N'ayez qu'à regarder votre calendrier, vous saurez quand a lieu la prochaine Guelaguetza. Les deux lundis qui suivent le 10 juillet, la mort de Benito Juárez.
Whispering, I love you. Echoes of your voice are calling still from my dreams, softening the chill of the breeze through my window. I can see the moon glow, painting silver shadows
on a rose-colored land. A world that we walk hand in hand in a day of gold, covered by the glow of new love. I can feel your warm face ever close to my lips, and the scent of you invades the cold evening air. I can close my eyes and you're there, you're in my arms still. Oh, I know your soft kiss turning into music every beat of my heart. When I hold you close to my heart and I hear your voice whispering I love you, I can feel your warm face ever close to my lips, and the scent of you invades the cool evening air. I feel you there in my arms still. I know your soft kiss is turning into music every beat of my
El Lunes de Cerro, c'est ça? Ou le lundi de la montagne, qu'est-ce qui s'y passe? C'est une fête. Hein.
C'est une offrande extraordinaire parce que vous allez retrouver les 7 provinces de cet état de Oaxaca. J'ai dit tout à l'heure que c'était l'état le plus indien qui soit du pays. Alors, c'est une esplanade qui ressemble à un grand stade en béton qui est posé sur le sommet de la montagne. Là, vous êtes vraiment au sommet de la ville et vous la voyez sous vos pieds avec Santo Domingo à gauche.
C'est moins magique, moi je l'imaginais autrement. Non, alors, c'est un stade en haut de la montagne.
Et justement, ben, il faut vous laisser faire. C'est comme la fête des vignerons à Vevey. C'est pourtant des gradins, mais une fois qu'ils sont pleins, c'est tout autre chose. Alors, vous avez des gens qui viennent de tout le pays. Vous allez remplir ces gradins, il y aura déjà pas mal d'ambiance. Et maintenant, vous allez mettre sur cette place centrale, sur cette espèce de galette centrale toute blanche, des micros, si vous voulez, bien sûr. Et puis, vous aurez des discours d'abord. Il y aura le gouverneur qui sera présent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les gens qui viennent de ces 7 provinces sont des gens qui sont tous très différents les uns des autres. Je veux dire par là que vous avez, par exemple, le premier bal, la première chose qui va se donner, ce sera un jarabe de la vallée de Oaxaca. C'est simplement dansé par des gens qui sont les Chinas Oaxaqueñas. Ça, c'est un groupe qui paraît assez normal. Elles ont des longues robes, elles sont magnifiques. Puis ensuite, vous aurez par exemple les hommes avec des sarapés posés sur l'épaule, ces ponchos et des grands chapeaux. Puis tout à coup, vous avez une délégation, par exemple, qui vont arriver de Yalalag, je sais pas, des Mirés. Les Mirés, ce sont les Indiens mixtecs, comme ça, c'est la descendance de ces Indiens qui vivent en pleine montagne et qui vont venir à pieds nus. Et qui vont faire une petite danse de rien du tout, avec une fille qui va venir chanter au micro, qui chante a cappella, complètement faux, avec son accent indien, qui chante vraiment dans la langue indigène des Mixtecs. Puis ensuite, vous avez, par exemple, alors contraste violent, Flor de Piña. Alors tout le monde attend ça. Vous avez, qu'est-ce que je vais vous dire, 20, 30 jeunes femmes, blondes pour la plupart, aux yeux bleus, toutes descendantes d'Allemands, comme ça, qui vivent d'une région tropicale.
Ah, il y a quand même des blondes au Mexique. Bah,
oui, parce que ça, c'est une région tropicale où il y a du café, où il y a surtout les Allemands qui l'ont exploité depuis les années 20. Ce sont des filles superbes avec des robes brodées, décorées, tout à fait indiennes, qui portent des ananas sur l'épaule et qui vont se dandiner comme ça pendant un moment avec une musique d'ambiance extraordinaire. On dit c'est pas possible, c'est pas le même pays, c'est pas le même endroit. Mmh. Et puis juste derrière, vous aurez au contraire une autre délégation qui va venir du petit village d'à côté où les femmes sont habillées en noir, elles ont un petit air tristounet, elles sont posées par terre avec des grosses cruches, elles vous lancent quelques friandises. Parce que ça, il faut pas l'oublier, les ananas tout à l'heure, on va les lancer dans la foule. Hein.
Ah, sympa.
Les noix de coco, les sacs de sucre, les sacs de café, pas très grand, hein, un sac d'un kilo au maximum. Enfin, tout ce qu'on a sous la main, c'est une offrande. Les fruits, des cannes à sucre, enfin, des petits morceau de.
Non, mais on le lance dans la foule ou l'inverse on
Ah
lance
non, carrément, au milieu dans du stade. La foule. Ah, dans la foule. Alors, tous ceux qui viennent offrir quelque chose sur la piste, danser, par exemple, le bal de la tortue. Bal de la tortue, vous avez cet homme qui arrive, qui prend ses œufs de tortue par terre, qui les lance dans le tablier de la femme qui est en face de lui. Ça, c'est les gens de Tehuantepec. Vous vous rappelez Tehuantepec avec les colliers d'or autour du cou, avec ses coiffes éblouissantes. Et puis, on terminera la fête avec ce que tout le monde attend. Alors, ce sont des jeunes qui s'entraînent toute l'année.
Donc ça commence
vers
tôt le matin.
Vers 10
heures. Ça se finit
carrément 1h, 2h du matin. Ah, non, non, c'est pas très long. C'est un immense spectacle.
2h du matin quand même, de 10h du matin à 2h du matin le lendemain.
Non. 10h du matin à 2h de l'après-midi.
Ah, pardon.
Non. Pendant les heures chaudes, en plein été, ça n'est déjà pas triste. Et puis ensuite, il faut penser à la foule qui est montée et la foule qui va redescendre. Alors, le point culminant, c'est vraiment un spectacle. J'ai dit fête des vignerons, c'est vraiment ça. C'est une offrande complète devant les autorités de tous les gens qui viennent de toute la province et de tout l'État. Alors, la dernière, c'est la danse et la pluma. La danse et la pluma, vous vous entraînez, vous êtes à l'université, c'est la danse de la plume. Vous avez sur la tête une coiffe qui doit bien faire 60 à 70 cm de hauteur. Elle est ronde, elle est faite de plumes très courtes avec des miroirs. Elle pèse plusieurs kilos et vous êtes jeune athlète et vous allez faire des sauts qui montent jusqu'à 80 cm de hauteur. C'est une danse éblouissante aussi par sa vigueur. Et puis alors on tourne la tête d'un seul coup comme ça tourne au soleil avec des couleurs et le costume est assez colonial comme ça avec des tissus de couleurs très violentes et finalement c'est l'apothéose parce que là il y a vraiment un rythme et une force qui fait penser à ces grandes danses indiennes de l'époque précolombienne et là en 3 heures vous aurez vu tout le folklore d'un pays et surtout toutes les différences entre l'Indien qui arrive à pieds nus et puis la métisse, enfin cette belle ladine qui est arrivée tout à l'heure, ou même celui de Tehuantepec qui arrive vraiment avec ses colliers d'or autour du cou, la richesse agricole du sud, du grand sud et des terres tropicales. Des pays de montagne qui vont jusqu'à 3000 mètres, vous êtes en pleine Sierra Madre, du café jusqu'aux bananiers de la côte. On a l'impression qu'on a un résumé complet du Mexique uniquement dans ces quelques heures de la Guelaguetza. Descendez, redescendez dans les rues, retrouvez-vous sur le Zocalo. Aujourd'hui, si c'est vraiment la Guelaguetza, vous n'êtes pas seul à Oaxaca, je peux vous le promettre, il y a de l'ambiance partout.